L'ami du village, chapitre 14. L'héritage du soldat. Tout le monde dormait dans le village. Aucun bruit, aucune lumière. Sauf, à quelque distance, vers le bord de l'eau, une sorte d'étincelle allant et venant sous les grands saules. C'était la cigarette de Martial Ardouin. Il attendait la Nanon. Elle parut enfin, s'enveloppant dans sa mante. « Me voici. Que me voulez-vous » dit-elle du ton de quelqu'un qui est pressé d'en finir. Le sergent jeta sa cigarette et répondit « J'aurais voulu vous voir un peu plus attendri tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous entendre donner un bon souvenir à Pierre Gervais. » Nanon garda le silence. « Allons, » reprit-il, « décidément, vous lui gardez rancune. » « Oui, » dit-elle d'une voix sourde et brève. « Je connais ses torts, » fit Martial avec douceur. « Il m'a conté toute l'histoire. Votre rencontre à Paris, quelle honnête et laborieuse ouvrière vous étiez alors, une de celles qu'on n'obtient que par le mariage. Il vous épousa. Ah ! Vous savez ? Tout, vous dis-je. L'avenir semblait devoir racheter son passé. » Pierre avait les meilleures intentions du monde. Il vous aimait. Une mauvaise tête, d'accord, mais un bon cœur. J'eus le malheur d'y croire, murmura-t-elle d'une voix amère et navrée. Mais son affection, sa reconnaissance, ses promesses, autant de mensonges. Ah, s'il avait voulu se mieux conduire et travailler, le ciel eût béni notre ménage. Il vivrait encore. Et je n'en serais pas à maudire sa mémoire et le pleurant malgré moi devant vous. » En effet, des sanglots qu'elle ne pouvait plus contenir étouffèrent la voix de Nanon. Elle se laissa tomber sur une souche de saule, la tête enfouie dans ses deux mains. « À la bonne heure, » dit le soldat gagné par cette émotion. « Je comprends qu'il vous ait aimé, madame Gervais. Je vois que vous étiez digne de lui. » « Mais il était indigne de moi, » répliqua-t-elle en relevant le front. « Malgré tous mes efforts pour le maintenir dans le droit chemin, il ne tarda pas à reprendre ses habitudes de débauche. Un jour, enfin, il disparut. Il m'avait abandonnée, moi, sa femme. Et pas une trace, pas un indice. L'idée me vint qu'il s'en était peut-être retourné dans son pays. J'accourus, je me renseignai à la mairie. C'était déjà Martin Fayolle qui était le maire. Il m'apprit que Pierre Gervais s'était engagé comme remplaçant, qu'il devait être en Afrique. Je me sentis perdu, délaissé, seul au monde. Un désespoir me prit. Je courus au hasard. La rivière m'arrêta. C'était le soir. Ici, tenez, à cette même place où nous sommes. L'eau m'attirait. J'étais affolé. J'allais mourir. Martin Fayolle, qui m'avait épié, me retint. Il lui manquait une servante, j'entrai à la ferme. Vous êtes, après mon maître, le seul du pays qui me sachiez la veuve de Pierre Gervais. Oubliez-le. La lune, se dégageant d'un nuage, éclairait en ce moment le visage de Nanon. Elle ne pleurait plus, mais ses traits, son regard, l'amertume de son sourire, le frissonnement convulsif qui agitait les plis de sa mante, tout en elle attestait un âpre tourment, une poignante douleur. Le sergent, de plus en plus ému, s'efforça de la consoler. « Calmez-vous, » dit-il, « du courage. Oui, je le reconnais, trahir une femme qui met sa confiance en votre honneur, une femme telle que vous, oui, c'est une lâcheté, c'est un crime. » Pourtant, il ne vous avait pas oublié. Votre souvenir lui était resté là, comme un remords qui dormait. Il se réveilla dès notre première rencontre, là-bas, sous les murs de Sébastopol. Et cependant, près de 15 années s'étaient écoulées. Bien souvent, Gervais me parlait de vous. Si vous saviez en quels termes. Annette était une honnête et vaillante femme, m'avait-il dit tout d'abord. Qui sait ce qu'elle sera devenue? Si elle a mal tourné, c'est ma faute. Mal tourné? Se récria fièrement la Nanon. Croyez bien, s'empressa d'interrompre Martial, que je le détrompais tout de suite à cet égard. Je vous avais vu à l'œuvre, moi. » « On n'a rien su, lui dis-je. Elle s'est acquis la considération de tout un chacun, voire même bravement, et par son travail, au service de Martin Fayolle, une petite fortune. Et tenez, voilà justement ce qui m'interloque. Ah, si vous étiez dans l'embarras, dans le besoin... » Le sergent hésitait, tout en tortillant une cigarette qu'il ne songeait pas à allumer. « Expliquez-vous, » demanda Nanon. Il reprit quelque assurance, il s'expliqua ainsi. « Comme je le disais ce soir à la conférence, Pierre Gervais était un de ces zouaves qui, par toutes sortes d'industries, ont toujours de l'argent. Nous avions eu là-bas une bonne aubaine. D'ailleurs, il venait de se rengager pour la troisième fois. Bref, j'ai là 50 louis, un dépôt qu'il m'a confié. Pour vous, Nanon, c'est son héritage. Acceptez-le. » Elle refusa du geste. Vainement, il insistait. À bout d'arguments, après une hésitation dernière, il lui dit « Si ce n'est pour vous, Madame Gervais, que ce soit pour votre enfant. » Elle se redressa tout à coup, comme mordue par un serpent. Ce cri s'échappa de ses lèvres. « Mon enfant ? Je n'ai pas eu d'enfant. Jamais. » Elle palpitait d'épouvante. Elle était superbe d'affirmation. Elle voulait qu'on la crût. Par malheur, Martial avait entre les mains la preuve de ce qu'il avançait. Il se contenta de sourire dans sa moustache. Il dit avec l'accent d'un doux reproche « Ah, Nanon, pourquoi mentir ? La somme est enveloppée dans la lettre que vous avez écrite il y a 15 ans. La voici. » Un instant, la Nanon resta terrifiée, béante. Puis elle voulut s'enfuir. Il la retint. « Nanon, je vous en supplie, prenez cela. Il était mourant lorsqu'il me l'a remis. Vous lui aviez pardonné une première fois quand il vivait. Pardonnez-lui maintenant qu'il n'est plus. Son enfant, il me l'a recommandé. « Si c'est un garçon, me dit-il, sois son protecteur. Si c'est une fille, empêche qu'on ne la trompe, et si tu peux l'aimer, deviens pour elle ce que j'aurais dû être pour sa mère, un bon mari. » Je m'y suis presque engagée, parole d'honneur. Ah, si vous aviez pu nous voir dans ce moment-là, vous nous auriez embrassés tous les deux. Quelques minutes plus tard, c'était fini. Je suis sûre qu'il nous regarde de là-haut. Donnez satisfaction à la pauvre âme. Prenez, prenez ce qu'elle vous donne par ma main, et dites-moi ce qu'est devenu l'enfant. Où est-il ?
Il est mort, répondit-elle.
Mort ? Quand cela ?
Mort en naissant.
Et s'arrachant à l'étreinte du zouave, elle disparut dans la nuit. Le rouleau d'or tomba, s'éparpillant dans l'herbe. Martial restait atterré, glacé par le dernier aveu de Nanon. Il leva les yeux vers le ciel, il murmura « Mon pauvre Pierre, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obéir à la consigne. Si ce n'est pas assez, toi qui savais toujours imaginer des expédients, tâche de m'envoyer une inspiration qui me permette de revenir à la charge. » Puis, le genou ployé, le corps penché vers le sol, il alluma sa cigarette, la promena dans l'herbe, retrouva les pièces d'or, les remit dans la lettre. « Ah, Nanon » murmurait-il en même temps. « Nanon, je t'en veux. Tu n'aurais pas dû faire cet affront à l'argent d'un soldat. » Et tout pensif, il reprit le chemin du manoir. Chapitre 15. Le fils de l'avare. Arsène Ardoin avait revu son fils avec un médiocre plaisir. L'avare craignait que ce retour ne l'entraînât dans une grosse dépense. « Est-ce que tu es ici pour longtemps, mon garçon ? » demanda-t-il presque aussitôt. « Rassurez-vous, répondit Martial, qui connaissait bien son père, je ne tarderai pas à rejoindre le régiment en Afrique. D'ailleurs, j'ai promis une partie de mon congé à des amis, des Parisiens. En repassant, je vous embrasserai, voilà tout. »
« Je ne dis pas cela pour te renvoyer, mon fils. »«
J'en suis persuadé, mon père. » À part lui, avec un sourire un peu triste, Le sergent ajouta « Autant dire que je suis comme Pierre Gervais, pas de famille. » Pendant ce temps-là, l'avare avait regardé les galons de l'uniforme et les médailles qui s'y trouvaient suspendues. C'était de l'argent, c'était de l'or. Il se rassura. Martial reprit à haute voix « De plus, je ne m'en reviens pas à la poche vide. On a son petit boursicot. Il est même à votre service. » « Non, » refusa l'avare en imposant quelque peu silence à sa rapacité. « Oh non, garde ton argent. L'argent, ça se garde. » Puis, d'un ton tout guiré, « Je suis content que tu m'aies consacré quelques jours. Songe donc, je vis tout seul ici, moi, comme un vieux loup. Sois le bienvenu, mon louveteau. Considère cette vieille bicoque comme ta propre maison. Hé, quelle bonne semaine nous allons y passer ensemble. » C'était limité d'avance l'hospitalité paternelle. Le zouave se le tint pour dit. Il en usa le plus discrètement possible. Presque chaque jour, on l'invitait au dehors. Il ne mangeait avec son père que lorsque celui-ci l'y engageait formellement. Aussitôt le maigre repas terminé, il s'en allait ailleurs prendre son gloria. Le vieillard ne demandait pas mieux que de rester en tête-à-tête avec ses écus. Un matin, cependant, il le retint par ces mots. « Un instant donc, mon gars, j'ai comme envie de te demander un service. » « Parlez, père, de quoi s'agit-il ? » Non sans réticence, l'usurier s'expliqua ainsi. « Tu vas peut-être bien te moquer de moi. J'hésite encore. Mais à qui se fier, sinon à son fils ? Sache donc que moi aussi, l'année dernière, j'ai été à Paris pour voir l'exposition universelle. Un voyage à prix réduit, un train de plaisir, comme ils disent. Ça m'a coûté gros. D'autant plus que je me suis laissé tenter. Une folie. Vraiment ? Qu'est-ce donc que vous avez acheté, mon père ?
Un coffre-fort.
Le zouave eut un sourire.
Ce n'est pas que je sois aussi riche qu'on veut bien le dire, reprit le vieil avare. Mais finalement, on a ses économies, ses sagesses de les mettre à l'abri d'un coup de main. Or, j'avais guigné là-bas une merveilleuse machine, à l'épreuve des voleurs. Je me la suis fait expédier sous une épaisse enveloppe de paille. Fallait pas qu'on se doutât de ce que c'était, tu comprends ?
Je comprends. Après ?
Après, fallait la sceller dans une bonne muraille. Mais un maçon, c'était un confident. Moi-même, j'ai ramassé de la pierre. Je me suis fait apporter du plâtre et du ciment par un certain Jean Marga, dont tu dois te souvenir.
Oui, le sanglier, un mauvais gars.
Un bandit, peut-être bien que j'ai eu tort. Cependant, je lui avais conté toute une histoire pour le dérouter. Malgré ça, j'avais lu dans ses yeux comme un soupçon. J'avais peur. Heureusement, on l'a arrêté, condamné 2 ans de prison. Me voilà tranquille. Mais encore dans l'embarras, reste à faire la besogne.
Où voulez-vous en venir ? S'écria Martial qui commençait à s'impatienter. « Voyons, expliquez-vous, quel est le service que vous attendez de moi ?»«
Ne t'emporte pas, mon garçon, m'y voici. Tu m'as conté que là-bas, pendant le siège, vous aviez creusé des trous, construit des baraques, tous les métiers, quoi. »«
C'est vrai ?» répondit Martial. « Un apprentissage universel, comme votre exposition, dans les zouaves surtout. » Nous sommes devenus terrassiers, charpentiers, maçons.
Maçons ! S'écria l'avare. Voilà précisément mon affaire. Aide-moi à sceller mon coffre.
Volontiers, montrez-moi l'endroit.
Son père l'arrêta par le bras et, le regardant dans les yeux,
Mais tu n'en diras rien. Pas vrai, fils ?
Je vous le promets.
Jure-le.
Je le jure.
À personne. Jamais.
Vous en avez ma parole.
Et j'y compte. Allons.
Le vieillard alla regarder au dehors, ferma la porte, puis les volets, alluma une lampe graisseuse et descendit vers la cave, suivi de son fils. Les caves du vieux manoir étaient vastes et taillées dans le roc.
elle se subdivisait en plusieurs compartiments. L'un d'eux, que masquaient des bourrées, était clos par une lourde porte bardée de fer. À l'aide d'un trousseau de clés qu'il portait dans sa ceinture, Arsène Ardoin ouvrit cette dernière porte. On pénétra dans un étroit caveau, plus sombre que les autres, et qui peut-être avait été jadis le trésor, la cachette du manoir. Sur le sol, Martial aperçut des cailloux entassés, un sac de plâtre, un tonnelé de ciment, une auge, une truelle, une pioche, un pic, un levier. Plus loin, grâce à la lampe qu'approchait le vieillard, une de ces formidables caisses, à fermeture compliquée, qui sont la gloire de la serrurerie moderne. « Tudieu ! » s'écria le zouave. « C'est comme une forteresse. Pour y faire brèche, il faudrait du canon. Vous avez sans doute un secret pour l'ouvrir. »
« Un secret terrible !» répondit avec intention l'avare.
« Celui qui ne le connaît pas, celui qui voudrait forcer la serrure, est un homme mort. Oh, ma forteresse est bien armée. Malheur à qui s'y frotte. Elle se défendrait elle-même. »
Il était effrayant d'ironie et de menace en parlant ainsi. D'abord indigné, le sergent finit par sourire.
« Vous avez l'air de dire ça pour moi, » répliqua-t-il, « et je m'en offenserais vraiment si vous n'étiez mon père. Pensez-vous donc que votre fils soit un voleur ?»
Le vieillard l'enveloppa dans ses bras, s'efforçant de s'excuser par toutes sortes de caresses.
« Ne te fâche pas, Martial. Comment ? Tu peux croire que... C'était pour rire. Il n'y a encore rien là-dedans. Et d'ailleurs, si j'y amasse plus tard un petit magot, est-ce que ce ne sera pas pour toi, mon enfant ? Je ne vivrai pas autant que mon trésor, hélas. »
Puis, montrant une place à demi creusée déjà dans la muraille,
« J'avais commencé, tu vois, mais je suis trop vieux, trop faible. Tu es jeune et fort, toi. Va, tiens, dépêche. »
Le sergent prit le pic que lui présentait son père. Il se mit à l'œuvre. La besogne était rude. Après un double revêtement de briques, il fallut attaquer le roc. Tout en éclairant son fils, Arsène Ardoin l'excitait.
« Attends, » dit-il tout à coup avec un naïf effort sur lui-même. « Je m'en vais chercher une bouteille de vin. Te voilà tout en sueur. »
Il posa la lampe sur le coffre et sortit un instant du caveau, mais non sans refermer la porte en dehors.
« Quelle confiance !» murmura le zouave en haussant les épaules avec une moue pleine d'amertume.
« Et je l'aime pourtant, c'est mon père. Moi qui serais si heureux d'en avoir un comme tous les autres. Un bonhomme de père et pauvre plutôt qu'avare.
Mille tonnerres, mais faut bien se contenter de ce qu'on a.
Pas de chance. » Et plus ardemment encore, il se remit au travail. Il avait hâte d'en finir et de s'en aller. Une heure plus tard, l'excavation était prête à recevoir le coffre-fort.
« C'est lourd !» dit le vieillard qui prétendait seconder son fils. « Et peut-être qu'à nous deux, nous aurons bien de la peine. »«
Laissez-moi faire !» interrompit Martial. « J'y suffirai seul. »
Effectivement, il souleva la pesante machine. Il la mit en place. L'avare admirait son fils avec une satisfaction mêlée d'orgueil.
« Comme tu es robuste, mon gars. Au moins, lorsque te reviendra mon héritage, tu pourras le défendre, toi. Ça me sera une consolation. »
Puis, gâchant plâtre et ciment d'une main fébrile, tandis que le sergent maçonnait déjà,
« Va, mon garçon, je t'en laisserai des écus. C'est pour toi que je les fais travailler. »
« Alors, » dit gravement Martial, « ne les fatiguez pas, ne soyez pas si dur au pauvre monde. J'aimerais mieux vous savoir moins riche et qu'on vous estime un peu plus. Excusez ma franchise, vous n'êtes pas aimé dans le pays, et ça me chagrine. Ça m'offense d'entendre mal parler de mon père. Or donc, si c'est pour m'en laisser davantage que l'argent vous tente, apprenez que je n'y tiens guère. » Permettez-moi de vous dire que la loi défend de prêter à de trop gros intérêts. Bien mal acquis porte malheur.
« Tiens, » fit l'usurier,
Te voilà raisonnant comme notre maître d'école, que je voudrais voir aux 500 diables.
Pourquoi donc ?
Parce qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas, parce qu'il nous porte grand préjudice. Ah, si l'on avait pu m'en débarrasser, comme je l'espérais.
Le vieillard s'arrêta, craignant d'en avoir trop dit. Son fils le regardait sévèrement.
« Que me dites-vous là, mon père ?»«
Rien, balbutia-t-il. Parlons d'autre chose. Achève ta besogne. Mais s'il y en a d'aucuns qui me haïssent, moi, je le déteste, le maître Guillaume. »
Arsène Ardoin avait prononcé ces derniers mots entre les dents, avec une irritation fiévreuse. Martial, qui s'était mis au travail, lui répondit
« Je ne cherche pas à savoir ce qu'il vous a fait, mon père. On en dit beaucoup de bien dans le pays. Sa figure loyale et résolue me plaît. Un brave jeune homme. Et d'ailleurs, ces pauvres maîtres d'école se donnent tant de peine pour si peu de profit. »
« Peu de profit ? » se récria l'irascible vieillard. « Il gagne de tous les côtés. À sa classe, à l'église, à la mairie, c'est lui qui tient les registres de l'état civil. »
Martial se frappa le front comme par une inspiration soudaine. Le souvenir de son entretien avec la Nanon venait de lui traverser l'esprit.
« Qu'as-tu donc ? » questionna son père.
« Rien, » répondit-il à son tour. « Tenez, ne causons plus, l'ouvrage avancera plus vite. »
Et tout bas, pour lui seul, il ajouta
« J'ai mon idée. »
Chapitre 16. Le secrétaire de la mairie. La loi de 1850 permet à l'instituteur d'être, en même temps, secrétaire de la mairie. Depuis lors, grâce à la parfaite tenue des actes de l'état civil, grâce aux bons avis du maître d'école, que de contestations, que de procès sont évités. Dans cette fonction, Guillaume apportait l'esprit d'ordre et la bienveillance qu'il savait mettre en toutes choses. Il comprenait que les fonctionnaires sont faits pour le public et non pas le public pour les fonctionnaires. Au premier appel, il était là, poli et serviable envers tous, surtout envers les malheureux, les inintelligents, les vieillards. Questions oiseuses, renseignements 10 fois répétés, exigences de toutes sortes, rien ne lassait sa patience. Réclamait-on ses conseils, il les donnait simplement, avec une dignité courtoise, sans le moindre pédantisme. S'agissait-il de quelque bonne paysanne, affaiblie par l'âge, un peu dure d'oreille, il la faisait asseoir, il élevait la voix. Jamais, par son fait, un secours ne fut retardé. Sa discrétion lui valait la confiance et sa bonté le respect. Les plus grossiers s'adoucissaient, se découvraient en lui parlant. À force de politesse, il les avait désarmés. Le lendemain de la scène du coffre-fort, dès l'aube, Martial avait pris congé de son père, et portant lui-même son mince bagage, il s'était mis en route. En traversant le village, il s'arrêta devant la maison d'école. Déjà, l'instituteur était dans sa classe, en train de préparer quelque travail pour ses élèves, qui ne devaient arriver qu'une heure plus tard. La porte était ouverte, le sergent parut sur le seuil. « Pardon, excuse, » dit-il en faisant le salut militaire. « Si c'était un effet de votre complaisance, j'aurais un renseignement à vous demander. »
« Tout à votre service, » répondit Guillaume, qui s'avançait à sa rencontre, et du geste l'invitait à s'asseoir.
« Voici la chose, » expliqua le zouave. « C'est vous, n'est-ce pas, qui êtes le secrétaire de la mairie ?»«
En effet,
comme tel, vous avez les registres de l'état civil. »«
Oui.
Voudriez-vous me donner communication de celui des décès ?»«
Pourquoi cela ?»
Après un instant d'hésitation, Martial répondit « C'est à propos de l'héritage à défunt Pierre Gervais. Il m'a laissé entre les mains une petite somme qui revient de droit à ses parents. »
« Ne disiez-vous pas l'autre jour qu'il ne lui en restait plus ?»
observa l'instituteur qui avait une bonne mémoire.
« Du côté de son père, » répliqua le zouave, non sans quelque embarras. « Mais dans la ligne maternelle, il faudrait voir. J'ai là le nom. » Il avait posé sa valise. Il sortit de sa poche un papier. C'était la lettre écrite il y avait 15 ans par Nanon. La lettre dans laquelle Nanon annonçait qu'elle allait devenir mère. Martial voulait savoir si elle lui avait dit la vérité. Si son enfant, l'enfant de Pierre Gervais, se trouvait réellement inscrit parmi les morts. Guillaume ouvrit une armoire, en sortit le registre et le plaça devant Martial Ardouin, sur un des pupitres de la classe. « Souhaitez-vous que je vous aide dans vos recherches, sergent ? » proposa-t-il. « Non, merci, » dit vivement le soldat. « Je préfère chercher seul. C'est une affaire de conscience. Comme qui dirait un secret entre le défunt et moi. On se connaît en écriture. J'ai été fourrier. » Martial n'avait guère l'habitude du mensonge, et il balbutiait en parlant ainsi. Sous le hâle qui recouvrait son visage, on eût vu sa rougeur. L'instituteur ne soupçonna rien. Il savait que les gens élevés à la campagne sont défiants de nature et se complaisent à maintes cachotteries. Il avait la discrétion de respecter leurs petits mystères. « Vous comprenez, n'est-ce pas ? » reprit le soldat. « Faites excuse. » « Soit, consentit Guillaume, examinez à votre aise, mais ici même je ne dois pas m'éloigner. Permettez-moi de reprendre mon travail. » « Comment donc ? » se récria Martial. « Chacun sa consigne. » En lui laissant le registre, Guillaume ajouta « Vous y trouverez également les actes de naissance. »« À merveille !» conclut le zouave. « Ne vous embarrassez plus de moi, j'en ferai mon affaire. » Puis, tandis que l'instituteur allait se rasseoir à l'autre extrémité de la salle, il s'installa devant le livre officiel, l'ouvrit à la date même que portait le timbre de la lettre et commença sa vérification. « Un ou deux, la Nanon, » murmura-t-il en même temps. « Nous allons bien voir. » L'état civil d'un village n'est pas volumineux. Une année tient dans quelques pages. Martial parcourut avec attention, tourna lentement les premiers feuillets. Le nom qu'il y cherchait ne s'offrait pas à ses regards. 4 ou 5 enfants étaient nés cette année-là. Le sergent connaissait leurs pères et mères. Il se ressouvint que parmi les gamins d'alors, il avait ramassé sa part de dragées de leur baptême. Rien, toujours rien de Nanon. Le zouave allait toujours. « Que je suis bête !» se dit-il tout à coup. « La naissance ne peut avoir eu lieu si longtemps après la lettre. » Il relut la date, afin de bien s'assurer qu'il ne se trompait pas. Les chiffres étaient parfaitement marqués, aucune erreur, aucun doute. Martial se gratta le front. Cette pensée lui vint. Peut-être n'aura-t-elle pas déclaré l'enfant ? Mais plus tard, lors de sa mort, il a bien fallu qu'on en dresse à l'acte. Et passant aux actes de décès, il continua sa recherche. Même résultat négatif. Cependant, cette fois, il était allé jusqu'au bout. Déjà l'impatience le gagnait. Ses sourcils s'étaient froncés, il mâchonnait sa moustache. « Oh !» se dit-il, « j'y mettrai de l'acharnement. Faut que j'en ai le cœur net. Je recommence. » D'une main fiévreuse, il se remit à feuilleter les pages. Telle était sa surexcitation que, sans même entendre ses paroles, il parlait maintenant tout haut. Le registre de l'état civil est l'histoire d'un village. À la vue de ces actes, déjà jaunis par le temps, 1000 souvenirs, tristes ou gais, se réveillaient tour à tour dans son esprit. « Tiens, le petit brochard, lui en ai-je flanqué des calottes à celui-là ? » Jérôme l'endormit. Il s'est endormi pour tout de bon. Nous l'avons conduit au cimetière. Pauvre garçon. Ah, François Thibault. Dans son jardin, nous chipions des pommes vertes. Juliette Bazin, fille alerte, la plus rieuse de tout le pays. Mathurine Corniquet, qui dansait si bien. Charlotte, Fanny, Marie-Rose. C'est maintenant des mères de famille. En ont-elles des trolleys de marmots ? Mais quant à la Nanon, jamais rien. Pas d'enfant. Elle m'a donc menti ? 1000 tonnerres ! Et bruyamment son poing s'apesantit sur le pupitre. Depuis un instant déjà, Guillaume avait relevé la tête et le regardait en souriant.
« Voyons, dit-il, il me semble que vous n'en sortirez pas. Acceptez mon aide. »«
Moins que jamais, s'écria le zouave. Mais tenez, causons, mon sang bout. »
L'instituteur, ne sachant trop que penser, gardait le silence. Tout à coup, à brûle-pourpoint, le zouave lui demanda
« Qu'est-ce que vous avez donc fait à mon père? Le vieux vous garde une dent. »
« Il a tort, répondit Guillaume. Je crois lui avoir rendu service. »
« Comment cela? Oh, parlez, je connais mon père. Il prête à trop gros intérêts, n'est-ce pas? Je vois à votre air que j'ai deviné juste. Oh, je donnerais tout au monde pour qu'on l'empêchât de se faire mépriser, haïr. »
C'est ce que j'ai tenté, sergent.
Avec des égards?
Vous pouvez en être certain. Je me suis permis quelques observations. Une menace. Il le fallait. Mais personne n'en a rien su. Je suis discret. J'ai ménagé ses cheveux blancs.
Il ne s'exposera plus. Il ne recommencera plus, je l'espère.
Merci. Je veux qu'on le respecte et qu'on l'aime. Quant à le tenir en bride, c'est une autre paire de manches, et quelque chose me dit là que vous avez bien agi. On a de l'œil. Vous êtes un honnête homme, maître Guillaume. »
Puis, fermant brusquement le registre, « Ma tête éclaterait, assez de grimoire. »«
Vous y renoncez ? » dit l'instituteur avec une pointe de raillerie.
« Non, répliqua énergiquement le soldat, mais je sais ce que je voulais savoir, et je m'en vais chez Martin Fayol. »
« Vous ne le trouverez pas. Il a dû partir au point du jour pour la ville, avec Gracienne et Nanon. »«
Ah ? » ?»« La santé de Gracienne devient de plus en plus alarmante. Ils sont allés au chef-lieu pour consulter un médecin. »
Martial ne l'écoutait plus. Il marchait à grands pas. Avec une sourde rage, il se disait
« Tant pis, je resterai jusqu'à son retour. Mais on m'attend. J'ai promis. » Il me reste juste le temps d'arriver à la gare.
Laissons-la réfléchir, je reviendrai. Mais qu'elle sache dès à présent que je ne suis pas sa dupe.
Monsieur le maître, une plume et du papier, s'il vous plaît, faut que j'écrive un mot.
Guillaume donna ce qu'on lui demandait. Martial saisit la plume et la fit crier sur le papier. Sa missive était ainsi conçue. J'ai vainement fourragé dans l'état civil. On ne se joue pas d'un zouave. Si vous avez fait élever ailleurs l'enfant de Pierre Gervais, je veux le savoir. S'il est mort, il m'en faut la preuve. À bientôt. »
Après avoir soigneusement cacheté cette lettre, il la remit à l'instituteur.
« Un dernier service, s'il vous plaît, maître Guillaume. Vous êtes un homme d'honneur. Vous remettrez fidèlement cette lettre à la Nanon. C'est très important. C'est un secret. » Motus. Et maintenant donnons-nous la main comme une paire d'amis. Au revoir. »
Sur cet adieu, reprenant sa valise, il partit au pas de course. En passant devant la ferme de Martin Fayol, il eut un geste, un mot de menace à l'adresse de la Nanon.
« Tonnerre, j'aurai ma revanche. »
Chapitre 17. La fête du pays. Le printemps était revenu. Un printemps pluvieux. Cependant, l'arpent de terre concédé à l'instituteur dans le champ sous l'eau restait sec, comme merveilleusement préservé de l'inondation générale. On eût dit une île au milieu d'un étang. Martin Fayol ne craignit pas de s'en vanter hautement, en présence même de l'instituteur.
« Charny, maître Guillaume, j'espère que notre drainage a crânement réussi. » Quelle triomphante épreuve!
Sans sourciller, le maître d'école répondit « Reste à appliquer le même système à tout le champ sous l'eau. »
« Plaisantez-vous? C'est un communal. »
Le corps législatif vient de voter 100 millions sous forme de prêts pour venir en aide aux communes qui voudront drainer leurs communaux. Les plans sont dressés sans frais par les ingénieurs du gouvernement qui se chargent même de la surveillance des travaux. Il n'y a qu'à demander. Les formalités sont des plus simples.
« Mais c'est magnifique! Nous voilà tous riches! Ne perdons pas de temps. Vous m'indiquerez comme il faut s'y prendre.
Une bonne part dans l'honneur de tout ceci vous revient de droit, maître Guillaume. Je le reconnais, je suis juste. Aussi, nous doublerons le terrain du jardin d'école. Ça ne sera plus un arpent, mais un hectare. » Après avoir remercié, l'instituteur hasarda cette demande. « Par la même occasion, le conseil municipal ne pourrait-il pas m'accorder un matériel de gymnastique ?»«
Vous en aurez un, monsieur le maître !» s'écria Martin Fayolle.
« Et cela sans qu'il nous en coûte un sou. C'est le baron d'Orgeval qui nous le donne. J'allais précisément vous apprendre que je viens de recevoir une lettre de lui. Son fils est bachelier. La commune se charge de l'installation. Par ainsi, c'est une affaire faite. » Quelques jours plus tard, le gymnase du village était inauguré. Les travaux de dessèchement commençaient. Vers cette même époque, le maire manda l'instituteur et lui dit « C'est bientôt notre fête patronale. Elle jouit dans le canton d'une juste renommée. Mât de cocagne, course en sac, tir à l'oie et quelques autres divertissements du même genre. Nonobstant, nos voisins la désertent, comme n'y trouvant plus les mêmes attraits qu'autrefois.
« Peut-être leur faudrait-il du nouveau ?» répliqua Guillaume.
« Du nouveau ?» se récria Martin Fayolle. « Comment diable remplacer le tir à l'oie ?»«
C'est un jeu cruel, » dit l'instituteur.
« Si je vous proposais en échange une petite fête nautique ?»«
Nautique ?»«
Sur la rivière ?» Nos jeunes nageurs s'y lanceraient en même temps, lutteraient de vitesse. Il y aurait des prix pour les premiers arrivés au but. On chavirerait une barque qu'il faudrait remettre à flot. On coulerait bas un mannequin que les plongeurs iraient chercher au fond de l'eau, ramèneraient jusqu'à la rive. Bref, un concours de sauvetage et de natation, comme en Suisse.
Tiens, tiens, c'est une idée.
Je vous offre en outre mon gymnase et mon orphéon. Ils sont encore dans l'enfance, soit, mais il y a commencement à tout. Vous demandiez du nouveau, en voici. Ce sont des distractions tout aussi intéressantes, plus dignes, moins barbares que celles qui torturent de pauvres animaux. Sans compter que la commune aura donné le bon exemple, que les autres voudront l'imiter, et que de cette émulation renaîtra la joyeuse et cordiale rivalité de nos fêtes villageoises. Monsieur le maire n'était pas encore convaincu. « Si la chose réussit, dit-il, j'en accepte la responsabilité. Mais si l'on se moque de nous, je... »«
Vous rejetterez tout sur moi, » conclut Guillaume.
« Dressons le programme. » Ce programme, multiplié par les meilleurs calligraphes de l'école, fut affiché dans tout le canton. Au jour dit, les visiteurs arrivèrent par centaines. L'effet fut prodigieux. On acclama Martin Fayolle.
« Charny !» disait-il à l'instituteur. « Le succès nous a donné raison. »
Tous les autres maires se renseignaient auprès de lui pour organiser à leur tour des fêtes pareilles. Il se rengorgeait. Son orgueil et sa joie ne connaissaient plus de bornes. Gracienne, d'ailleurs, allait mieux depuis quelques jours. Elle avait assisté à tous les divertissements. Sous sa blanche toilette, elle était charmante. Un peu plus grave, vêtue de demi-deuil, Claudine l'accompagnait, lui donnait le bras. C'était son cavalier. À quelques pas en arrière, la Nanon suivait les deux jeunes filles, ne perdant pas de vue Gracienne. Un seul homme, le baron d'Orgeval, alla complimenter l'instituteur. « Bravo, maître Guillaume! « Vous ranimerez dans le cœur de nos paysans l'amour de leur village. »«
Ce n'est pas seulement aux paysans que je voudrais rendre cet amour-là, » répliqua le maître d'école.
« Je vous comprends, » fit le baron. « Nous autres aussi, nous nous sommes détachés du sol. Nous avons déserté les campagnes, et l'ennui nous gagne dans les villes. Déjà mon fils est atteint de ce mal. Il voyage maintenant en Italie. À son retour... Que fera-t-il ? Rien, comme son père. C'est triste, mais à cela, quel remède ! Guillaume eut le sourire d'un homme qui, pouvant répondre, ne l'ose pas. « Quelle est votre pensée ? Reprit le baron d'Orgeval. « Dites-la-moi franchement, tout entière. Je le veux, Je vous en prie.
Puisque monsieur le baron m'y autorise, répliqua l'instituteur, je me permettrai de lui dire qu'en Angleterre, en Allemagne, les grands propriétaires s'intéressent personnellement à l'exploitation de leur domaine. Chaque procédé nouveau de grande culture, chaque nouvelle découverte, ils l'expérimentent, ils s'en font les promoteurs. Les races de bétail améliorées se propagent par leurs étables et en vertu de leurs sacrifices. Si dans les environs de leur résidence se trouve un site favorable à la création de quelque industrie, ils y consacrent des capitaux. Pour tous ceux qui les entourent, pour eux-mêmes comme pour leurs enfants, la fortune dont ils jouissent est un élément d'activité, de prospérité, de bonheur. Mais pardon, je vais trop loin. Non, merci du conseil, je m'en souviendrai. Après avoir serré la main de l'instituteur, le vieux gentilhomme s'éloigna. Déjà la nuit venait, avec la nuit l'orage. Mais tel était l'entrain de la fête qu'on y prenait garde. Gratienne, échauffée par la course, hors d'haleine, accourut vers la Nanon qui, depuis un moment, la cherchait. « Nanon, Nanon, on danse des rondes dans la prairie. J'y cours avec Claudine. »«
Je te le défends !»
s'écria la servante. « Il va pleuvoir, l'air fraîchit, te voilà tout en nage. » Mais déjà Gratienne était partie. La Nanon allait la poursuivre lorsque tout à coup, Martial Ardoin se dressa devant elle, lui barrant le chemin. Elle ne l'avait pas revu. Elle espérait ne plus le revoir. Le sergent paraissait sortir de maladie. Il était très pâle. « Ah ! » fit-il, « vous ne m'attendiez pas. Une sotte querelle, un coup de sabre m'a retardé de 6 semaines. On vous a remis mon billet, je pense. » « Oui. S'il vous plaît, la réponse. » Haussant l'épaule, elle voulut passer outre. Il la retint. « Voulez-vous donc que je parle tout haut ? L'enfant de Pierre Gervais ?» Vivement, elle lui jeta une main sur les lèvres. Puis, épouvantée, domptée, « Plus bas !» murmura-t-elle. « Parlons plus bas !»« Soit, je ne demande pas mieux. Ce que je veux savoir, point n'est besoin que je le répète. Répondez loyalement, catégoriquement. » On ne me trompe pas de foi. Je vous ai dit la vérité.
Cependant,
oubliez-vous donc que vous étiez alors au pays et que l'on n'a rien su, rien soupçonné. Ce sont vos propres paroles. C'est ce que vous avez dit là-bas à Pierre. Il y a 2 mois, vous me le répétiez à moi-même sous les saules du bord de l'eau.
Je m'en souviens. Au fait, c'est juste.
Alors, laissez-moi passer.
Non. Il faut que je sache comment vous avez fait. Dites. »
Un instant, les yeux dans les yeux, ils se regardèrent. La Nanon comprit que Martial ne céderait pas. Elle parut se résoudre à parler. « Eh bien » la stimula-t-il d'un ton bref. Courbant le front, les sourcils rapprochés l'un de l'autre, d'une voix saccadée, elle répondit enfin. « Quand il est venu au monde, quand il est mort, c'était la nuit. J'ai creusé moi-même une fosse et... » Un soupçon terrible traversa l'esprit du sergent.
« Ah ! » s'écria-t-il. « Vous l'avez tué ! »
Elle releva soudain la tête et, le regardant bien en face,
« Ai-je l'apparence d'une femme qui eût été mauvaise mère ? » dit-elle.
Le zouave ne savait plus que penser. À la lueur d'un éclair qui déchira le ciel noir, il aperçut l'église. « Nanon, dit-il brusquement, je sais que vous avez de la religion. Jurez-moi que c'est vrai, je vous tiens quitte. » Un coup de tonnerre retentit. Peut-être par effroi, Nanon se voila le visage.
« Oh ! » s'écria Martial, « vous hésitez, vous n'osez pas. »«
Non, ce n'est pas cela, » balbutia-t-elle tout éperdue. « Mais voici l'orage, la pluie tombe. » Ah, la malheureuse enfant, elle sera mouillée, elle aura froid. Pour elle, c'est la mort. Elle voulait s'échapper, courir. Il l'avait saisie d'une main. De l'autre, à la lueur d'un second éclair, montrant la croix qui surmontait le clocher, « Jurez-moi que vous ne mentez pas. Sinon, non !»
« Je le jure, » répondit-elle.
« Devant Dieu ?»«
Devant Dieu. » Et libre enfin, elle se précipita vers la prairie. La ronde y tournait encore sous le ciel en feu. Tout à coup, la foudre éclata, déchaînant des torrents de pluie et de grêle que faisait tourbillonner un vent impétueux, glacial. À peine quelques arbres, tordus par le vent, offraient-ils un refuge aux danseurs. Longtemps, au milieu du fracas de l'orage, la Nanon appela, chercha Gratienne. Lorsqu'enfin elle la trouva, Claudine l'abritait, la réchauffait de son corps. Gratienne était déjà toute frissonnante, elle claquait des dents. « Malheur !» dit la Nanon, qui l'emporta dans ses bras.
Chapitre 18. Angoisse. Depuis quelques jours, Gratienne se débattait entre la vie et la mort. Une fièvre ardente la dévorait. Sa pauvre petite poitrine, déjà si frêle, était déchirée par une toux convulsive. Après chaque crise, on eût dit qu'elle allait rendre l'âme. Martin Fayolle était fou de douleur. La Nanon, bien qu'en proie à d'aussi cruelles angoisses, conservait cependant toute son énergie. Sans repos, nuit et jour, elle soignait sa chair malade. Elle luttait pour la sauver. À peine tolérait-elle que le père entrât dans la chambre. Claudine était rigoureusement consignée. Chaque matin, dès l'aube, Guillaume venait chercher des nouvelles et s'en retournait, appréhendant le nouveau coup qu'il allait porter à sa sœur adoptive. La nuit avait été mauvaise. Le médecin ne laissait que peu d'espoir. Quelques heures encore, et ce serait peut-être fini. Claudine se désespérait. « Mais je porte donc malheur à tous ceux qui me marquent de l'amitié, » disait-elle. « N'est-ce pas assez d'avoir vu mourir Marianne et le père Sylvain ? Eux encore, ils étaient avancés en âge. Mais Gratienne, ma pauvre Gratienne, à peine 15 ans !» Souvent, elle s'échappait pour courir à la ferme. Elle y passait de longues heures auprès de Martin Fayolle. Ils se désolaient ensemble, ils pleuraient. Dans les yeux de Nanon, pas une larme. Quelques mots articulés d'une voix rauque, et c'était tout. D'ailleurs, on ne la voyait guère. Sans cesse enfermée avec la malade, elle préparait elle-même ses médicaments, les lui faisait prendre, l'encourageait, la soutenait, effaçant un pli du drap, relevant la couverture ou l'oreiller. Parfois même, pour l'endormir, elle trouvait le courage de fredonner une de ces vieilles chansons du pays avec lesquelles elle avait bercé son enfance. Lorsqu'enfin Gratienne succombait au sommeil, Nanon se laissait tomber sur une chaise basse, retenant son souffle, la bouche béante, l'œil fixe. Elle restait ainsi, immobile et morne, un chapelet dans ses mains jointes. Mais elle ne priait pas des lèvres, elle priait du cœur. Une nuit, l'enfant rouvrit les yeux, se souleva sans bruit, regarda la dévouée servante qui, tout absorbée dans sa douloureuse ferveur, murmurait « Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Pardonnez-moi » « Te pardonner ?» dit Gratienne. « Mais tu n'as jamais fait de mal à personne, ma bonne Nanon !»« Qui sait ?» s'écria brusquement la servante, comme courroucée contre elle-même. Puis, après avoir embrassé l'enfant comme elle ne l'avait jamais embrassé, après lui avoir fait prendre quelques gouttes d'une potion calmante, elle la contraignit à refermer les paupières. Quelques minutes plus tard, ainsi qu'en rêve, la jeune malade crut entrevoir Nanon, qui, les yeux au ciel, le visage inondé de pleurs, se frappait la poitrine en se mordant les lèvres pour étouffer ses sanglots. Le lendemain soir, après une dernière crise suivie d'une prostration complète, le médecin dit à voix basse « Il est temps de prévenir monsieur le curé. » Martin Fayolle était sur le seuil. Derrière lui, Claudine. Elle eut un mouvement pour obéir au docteur. « Reste !» dit tout à coup la Nanon. « Ce sera moi, j'irai. »
et pour la première fois, leur faisant signe d'entrer dans la chambre, elle s'élança au dehors. Comme elle arrivait devant l'église, on sortait du salut. Elle alla droit au vieux prêtre, elle lui dit à l'oreille quelques mots que lui seul put entendre.
« Quoi ? » murmura-t-il avec étonnement. « Vous voulez... ce soir même ?»«
À l'instant !» répondit-elle d'un ton résolu. Tous les deux se dirigèrent vers le confessionnal. Déjà l'humble église était plongée dans l'ombre. La porte restait ouverte, se découpant en noir sur le fond bleuâtre du crépuscule. Extérieurement, plus personne, aucun bruit. L'église est entourée par un enclos, c'est l'ancien cimetière. On y pénètre par une barrière à claire-voie qui se trouve enchâssée dans le mur à hauteur d'appui. Cette barrière s'ouvrit, poussée du dehors. Un homme parut, s'avança précautionneusement, comme avec le désir de ne pas être vu. C'était le sergent Martial Ardoin. Ne sachant plus comment employer l'héritage de Pierre Gervais, ne voulant pas le garder pour lui-même, il venait le déposer dans le tronc des pauvres. Il franchit donc le porche en silence, il s'engagea dans les ténèbres de l'église. Tout à coup, comme sa main cherchait à tâtons la cassette scellée dans la muraille, Martial entendit de l'autre côté, dans le confessionnal, un mouvement, un bruit. Quelqu'un venait de se relever, se dirigeant rapidement vers la sortie. Le sergent reconnut la Nanon. Il ne put retenir un cri de surprise.
« Qui donc est là ?»
demanda la voix de l'abbé Denizet. « Ami, répondit le zouave, c'est moi, monsieur le curé. Je ne regrette pas la rencontre. »
« Pourquoi ? Que venais-tu faire ici à cette heure ?»«
J'allais insinuer là-dedans 50 napoléons. Il m'avait été confié par un mourant, qui n'a plus d'autre héritier que les pauvres de la paroisse. Autant que vous preniez cela dans votre bourse. On sait bien que c'est la leur. »
À cette réponse du soldat, le prêtre lui serra la main.
« Bien, lui dit-il, c'est bien, mon garçon. « Voilà une pensée qui te portera bonheur. »«
Vous acceptez, n'est-ce pas ?» reprit Martial.
« J'aime bien mieux ça, car vous direz quelques messes pour l'âme de Pierre Gervais. C'est lui qui... »
Le vieillard ne le laissa pas achever.
« Je te le promets, » dit-il avec émotion.
« Mais garde cet argent. Je te dirai dans quelques jours à qui il appartient, à qui tu dois le remettre. »«
Bah !» s'écria le sergent. « Vous avez donc été plus heureux que moi. Vous savez... »«
Je sais tout !» l'interrompit de nouveau le vieux prêtre. « Mais c'est encore le secret de la confession. À bientôt !»
Il allait s'éloigner. Martial le retint.
« Il n'y a qu'une petite difficulté à cela, monsieur le curé. C'est que je pars ce soir. »«
Tu ne peux pas attendre ?»«
Non !» C'est la fin de mon congé, faut que je rejoigne.
Alors, veux-tu m'accepter pour intermédiaire ? Je t'enverrai le reçu.
Signé de l'enfant ?
Signé de la mère.
Voici l'argent, s'écria le zouave. J'ai confiance, mais c'est égal, je ne serai pas fâché de savoir. Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur le curé ? Je me suis donné tant de tintouin pour découvrir. « Ah, mon pauvre Pierre Gervais, ton or ira donc à son adresse. Mais que je suis donc content, mille tonnerres !»
Le zouave se rappela tout à coup qu'il était dans une église. Se mordant mais trop tard les lèvres,
« Oh, pardon, monsieur le curé !»«
Je t'absous, mon ami, » répondit le bon prêtre. « Heureux voyage et bonne chance !»
Et quittant le soldat qui venait de lui remettre la somme, il se dirigea vers la ferme de Martin Fayolle. En entrant dans la chambre de la malade, il aperçut le père et Claudine qui, penchés vers le lit, dans une attitude silencieuse, souriaient à travers leurs larmes.
« Que s'est-il donc passé ? » murmura l'abbé Denizet.
« Elle s'est calmée, elle dort !» répondit à voix basse la Nanon, dont le visage resplendissait d'espérance. Le curé lui montra le ciel. Elle étendit la main comme pour renouveler un serment. « Mon Dieu, dit le prêtre, vous qui pardonnez au repentir, faites pour nous un miracle. »